texte de base, un poème ou un chant du livre d'Ésaïe. Alors, c'est le premier, il y en a quatre en tout, de ce qu'on nomme les chants du serviteur. Et ce poème ou ce chant va nous présenter en partie le caractère de ce serviteur et l'œuvre qu'il va accomplir de la part de l'Éternel. Il se trouve en Ésaïe 42, versets 1 à 9, pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible pour suivre. Mais avant d'en commencer la lecture, je vais brièvement situer son contexte historique. Donc, le prophète Ésaïe a exercé son ministère 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ, dans le royaume de Juda et sous plusieurs rois, sous des rois plus ou moins fidèles à l'Éternel. Et sans cesse, durant tout son ministère, il appelait le peuple d'Israël à se confier en Dieu, en celui qu'il a racheté, plutôt que de faire alliance avec des nations étrangères. Il y avait des difficultés géopolitiques. Les grosses puissances locales du Moyen-Orient menaçaient Israël, qui était un petit royaume, et la tentation, au lieu de se tourner vers Dieu, les Israélites avaient la tentation de soit essayer de faire des alliances avec des peuples étrangers, soit de se confier dans les idoles, et les idoles de ces peuples, entre autres. Et malgré quelques sursauts spirituels pour revenir à l'Éternel, selon certains rois qui essayaient de revenir au Seigneur, qui entraînaient un peu le peuple, l'idolâtrie est devenue de plus en plus présente dans le royaume de Juda, au point que finalement, Ésaïe, dans les derniers chapitres 38, 39, ça va annoncer de la part de l'Éternel que le peuple va être déporté et exilé à Babylone. Mais l'Éternel ne va pas en rester là. Et à partir du chapitre 40, du chapitre 40 à 66, il y a ce qu'on appelle la consolation, le livre de la consolation qui commence par « Consoler, consoler mon peuple ». Et dans ce livre de la consolation, juste après avoir annoncé l'exil, la déportation du peuple, il va aussi annoncer d'un futur plus lointain son retour, sa délivrance. Elle va même être comparée à un nouvel exode, en écho au premier exode qu'ils avaient vécu lors de leur délivrance d'Israël. Et on voyait sur la slide, l'Éternel va promettre un retour d'exil en deux étapes. D'abord, un retour en Israël, une délivrance de Babylone, un retour géographique, physique. Il sera accompli par un roi qui s'appelle Cyrus. Dieu va l'appeler et ça va être aussi, en partie, va aussi être appelé le serviteur de l'Éternel. Mais aussi, il va parler d'un autre serviteur qui, lui, va accomplir un exode plus profond. Au-delà de l'exode physique qui va faire revenir le peuple d'Israël en Israël, mais dans le cœur, ce ne sera pas encore vraiment ça. Et le vrai exode, l'exode qui va transformer les cœurs, va être accompli par un second serviteur qu'on voit dans quatre chants, et donc l'Ésaïe 42 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cyrus va agir de manière politique, ça va être un serviteur guerrier, mais le vrai serviteur de l'Éternel, quand je dis vrai, ça ne veut pas dire que Cyrus était faux. Ça veut dire tout simplement que quand Jésus dit « Je suis la vraie lumière », il y a eu des lumières avant lui. Mais toute cette lumière-là, elles étaient imparfaites et elles pointaient vers la vraie lumière. Quand il dit « Je suis le bon berger », il est vraiment le bon berger. Il y a eu d'autres bergers en Israël avant. Mais par rapport à lui, qui était le vrai berger, il accomplit la vraie réalité du berger. Et là, pareil, il accomplit la vraie réalité de ce qu'est le vrai serviteur de l'Éternel. Et donc, ce vrai serviteur de l'Éternel va agir d'une autre manière pour accomplir un exode, une délivrance plus profonde, la délivrance des cœurs, le rachat du péché. Nous allons donc lire le premier chant ou poème du serviteur en Ésaïe 42. Fanny Lou, tu me suis ? Les quatre premiers versets. Voici, c'est bon, super, c'est dans la version de Semeur. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. » À la lecture du premier verset, vous avez peut-être reconnu des bouts de phrases qui fait toute ma joie, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus se fait baptiser, que l'Esprit descend sous une forme de colombe et qu'on entend une voix, le Père dit « Voici celui qui fait toute ma joie ». Pareil, la transfiguration. Quand chaque fois que Jésus est approuvé publiquement par le Père dans son ministère, il y a cette voix qui dit « Voici celui qui fait toute ma joie ». Dans la transfiguration, en Luc 9 aussi, « Celui que j'ai choisi ». Chaque fois, ces passages sont appliqués à Jésus. Et puis en Matthieu 12, dans les versets 14 à 21, je vais vous les lire. Les pharisiens sortirent de la synagogue, Jésus vient de faire un miracle le jour du sabbat, et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Jésus a fait du bien, eux ils pensent du mal. Et regardez comment répond Jésus à ces menaces de mort, à cette hostilité. Est-ce qu'il va appeler des myriades d'anges pour régler le problème ? Il va agir autrement. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Et écoutez la suite. Ainsi donc devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui. Il annoncera la justice à tous les peuples. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Donc on voit que Jésus a littéralement accompli cette prophétie. Donc on voit que finalement, ce serviteur dont parle Ésaïe, les apôtres sous l'inspiration du Saint-Esprit l'ont formellement, c'est Jésus quoi. Ils ont formellement vu que c'était de Jésus dont il était parlé. Et on voit clairement la manière dont le texte le dit, je l'ai déjà dit, la manière dont il répond à la menace, à l'hostilité. Il ne répond pas frontalement, de manière politique, mais répond en prenant soin des foules, en les guérissant. C'est sa manière à lui de restaurer la justice, c'est la manière à lui de l'instaurer. Revenons à Ésaïe 42, versets 1 à 4. Même le premier verset, merci. Dès le début de ce chant, ce serviteur, qui a été identifié comme le Messie, donc, on voit qu'il a le soutien de Dieu, de l'Éternel, de celui qui a créé l'univers, comme nous le verrons plus tard. Il a été choisi, il est soutenu par Dieu, il fait toute sa joie et il lui a donné son esprit. On voit toutes ses caractéristiques. Merci. Dieu, en gros, Dieu est en train de lui donner, Dieu dit qu'il lui donne la première place, que c'est lui qui a vraiment le plus important. Quelqu'un que l'on soutient, que l'on choisit, qui fait toute notre joie, et Dieu lui a donné son esprit, et c'est l'Éternel qui donne ça, on voit vraiment que le serviteur qui identifie à Jésus a la place primordiale. Et moi, ça m'a interpellé. Quelle place lui donnons-nous dans nos vies ? Comment nous positionnons-nous par rapport à lui ? C'est peut-être la question la plus influente que l'on peut se poser dans notre vie. Bien plus que choisir notre métier, avec qui on va se marier ou pas, quelle bagnole je vais choisir, voilà, c'est de moins en moins important, mais celle-là, c'est la question la plus importante de toutes. Elle va influencer tous nos autres choix. L'apôtre Pierre, dans sa première prédication dans les Actes, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ce Messie que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite. Il a fait Seigneur. En gros, Pierre est en train de dire, regardez, Dieu lui a donné la première place, et vous, que faites-vous ? Et ils disent, que devons-nous faire ? Croyez. Et ceux qui croient et qui reconnaissent la place que Dieu a donnée à Jésus, qui la reconnaissent à eux aussi dans leur vie, obtiennent le pardon, parce qu'il a la puissance de pardonner. Mais il a été vu comme Seigneur. Pareil dans Philippiens, il a été levé au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il est à la première place. Et ça nous interpelle dans nos vies. Que nous soyons déjà chrétiens, est-ce que nous devons lui redonner la première place ou lui laisser de plus en plus de place, ou que nous ne soyons pas chrétiens, c'est la question la plus importante qu'on peut se poser dans nos vies. Quelle place a Jésus ? Et puis nous voyons aussi que dans Ésaïe 42, nous voyons aussi, tu peux revenir Fanny Lou, s'il te plaît, dans Ésaïe 42, les deux premiers versets, que ce Dieu qu'il a choisi et le soutient lui a donné son esprit, pas pour rien, mais pour établir le droit pour tous les peuples. C'est sa mission. Et cela va revenir trois fois dans les quatre versets. Au verset 3, il dit « Il établira le droit selon la vérité. » Au verset 4, « Jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur terre. » C'est une mission universelle. Elle va s'adresser à tous les peuples. On est tous invités sur toute la terre. Et elle va être menée jusqu'au bout, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Mais ce qui surprend le plus, c'est la manière dont cette mission va être menée. qui dévoile le caractère de ce serviteur. Pour établir le droit, on s'attend souvent à une démonstration de force. Hein. Si quelqu'un veut établir le droit, on dit « mais que fait le ministre de l'Intérieur ? Que fait le ministre de la Justice ?» Ça fait, voilà, dans notre tête, le droit, ben, c'est quelque chose qui s'impose au récalcitrant. Voilà. Mais là, la manière dont parle Jésus, c'est vraiment différent. Ça ne va pas se passer comme on croit. Le texte de la version de Semeur commence par « mais », soulignant ainsi le contraste. « Mais il ne criera pas. Ben, » Jésus n'a pas été un révolutionnaire. Il a changé les cœurs, mais pas de manière révolutionnaire comme on l'entend. Il y a eu un malentendu Jésus à son époque. Les Juifs de son époque attendaient un puissant libérateur, un Messie à la tête d'une armée qui allait bouter les Romains hors d'Israël et établir la paix en écrasant ses ennemis. Mais en fait, quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus ne s'est pas préoccupé des Romains, en tout cas en tant que puissance militaire. Il a pris en compassion les foules qui cherchaient le sens de leur vie. Elles sont décrites comme errantes, comme sans berger, on l'a entendu la semaine dernière aussi. Il leur a offert sa compassion et son pardon. Il a offert aussi sa compassion et son pardon à ceux qui étaient jugés par la société. On pense à la femme adultère, à Zachée, à Marie de Magdala. Il était réputé comme fréquentant les gens de mauvaise vie. Il a consolé, il a guéri, il a délivré. Il a montré son amour jusqu'à mourir sur une croix. Et en apparence, ça pouvait sembler de la faiblesse. C'était évidemment pas une démonstration de force. Mais par cette mort, il a accompli la justice de Dieu. Il a offert le pardon. La justice a tout ce qui se confie en lui. Et encore de nos jours, l'invitation est toujours d'actualité tant que nous sommes vivants. Sa mort est toujours efficace et agit encore. Le prophète aussi poursuit en parlant du serviteur de Dieu en disant qu'il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Quand Jésus parlait, il avait une autorité en lui-même. Sa parole suffisait, la manière dont il agissait, il dégageait quelque chose, il avait une autorité. Est-ce que quelqu'un ce matin se sent comme un roseau sur le point de craquer? Comme une flamme qui risque de s'éteindre au prochain coup de vent, à la prochaine tempête de la vie? Quelqu'un se sent-il à bout de force? Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus veut être votre force. Celui qui ne faiblira pas pour vous soutenir, celui qui ne ploiera pas quand vous sentez proche de craquer. C'est ce que dit le verset 4. Quand nous faiblissons, lui est notre force. Quand nous ployons, il est notre soutien. Et ce même Jésus invite dans les évangiles ceux qui se sentent fatigués et chargés. Matthieu 11, 28 et 9 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, la charge que je vous impose est légère. » Une des rares fois où Jésus se définit lui-même, il dit aussi « Je suis le chemin, la vérité, la vie », mais quand il parle de son caractère, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Cela résume bien ce qui est dit du serviteur dans Isaïe 42. Mais ce Jésus qui est doux et humble de cœur, ce serviteur, il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. En fait, c'est le contraste incroyable qu'il y a en Jésus. Il est doux, mais en même temps, il ne faiblit pas. Sa douceur, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une douceur intentionnelle, ferme, persévérante. Il a prouvé en allant jusqu'à la croix pour nous. Ce n'est pas une douceur indifférente. Elle est soutenante, elle établit la justice, elle restaure les vies brisées, des vies qui peuvent vaciller comme une flamèche par moments. Et c'est vrai, dans nos vies, nous en sommes à la fois bénéficiaires, nous sommes les objets de sa grâce, du début à la fin de nos vies. Il y a eu un chant tout à l'heure qui disait « Quand à la fin de ma vie, je serai sans force », qui a été repris là. Qui parle, qui peut, là c'est la fin de vie, mais ça peut être dans tous nos moments de faiblesse dans nos vies, quand on est sans force. Et puis aussi, on peut être comme participant à son œuvre, dans le même esprit que lui. On est à la fois consolé et on est aussi consolateur, tour à tour dans nos vies. J'ai deux petites anecdotes. Il y en a une qui se passe à Man, une à Montréal. Là, vous avez fait le tour de ma vie géographique. J'ai aussi vécu à Nîmes en tant qu'adulte et à Vergès enfant. Mais sinon, adulte, c'est Nîmes, Mende et Montréal. Voilà. Un jour, j'étais étudiant à Mende. C'est là où j'ai fait mes études pour être infirmier. Et là, je traverse une période un peu difficile. Les études sont un peu dures. Puis je me sens un peu seul. Enfin bref, ça va pas fort, quoi. Puis je commence à nourrir de mauvaises pensées. Je suis découragé. Et puis je marche dans la rue. Et puis là, je nourris vraiment de mauvaises pensées qui... En fait, je suis en train de m'éloigner du Seigneur, quoi. Puis là, comme par hasard, entre guillemets, c'est un hasard divin, évidemment, je croise une sœur dans la rue. Puis elle m'a rien dit de spécial. Elle avait l'air en pleine forme. Je pense qu'elle devait... Sûrement, elle avait passé un bon moment avec le Seigneur. Salut Christophe, elle me sourit, on tape la bise. Ça va, ouais, ça va, ça. Puis hop, elle allait ailleurs, moi je suis parti ailleurs. Et il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas comment... Elle était sereine, pleine de joie douce et profonde. Et cela a changé toute ma journée. Et plus que ça, ça m'a remis sur le droit chemin. Le Seigneur agit de cette manière-là, à ce moment-là, avec sa douceur. La douceur et la joie du salut m'ont été rappelées juste par la présence d'une sœur qui était remplie du Seigneur. Inversement, moi, je me rappelle un soir, je vivais à Montréal. À l'époque, en plus, je vivais en communauté. Je suis chez moi, c'est l'été. Puis là, je passe un moment avec le Seigneur. Et puis, il fait bon. J'ai envie de sortir dans la rue et de louer le Seigneur. Un moment de plénitude, une grâce, là, je suis rempli du Seigneur. Je sors, je loue. Puis là, à un moment, je croise un autre frère dans la rue, de loin. Et puis, bon, spontanément, j'ai envie d'aller le voir. On est dans la même église. Et puis, lui, il me dit, non, laisse-moi tranquille. Lui, il passait un très mauvais moment. Il passait un moment très difficile dans sa vie. Et puis, il traversait une période difficile dans sa vie personnelle. Et puis, il me dit, non, ça. Bon, j'ai dit, OK. Et puis, j'ai souri. Et puis, je repars tranquille. Et puis, le lendemain, ce même frère vient me voir. Et finalement, il avait été touché par le Seigneur lors de notre brève rencontre. Il lui dit, avec Dieu, avait des difficultés dans sa vie. Et juste ce bonjour souriant, et je pense rempli de douceur parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des moments où on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit. Eh bien, ça l'a touché. Ça, il a fait un bien fou. Il est venu me voir et m'en témoigner. La grâce de Dieu, à la fois consolé et à la fois consolateur, animé par l'Esprit de Jésus. Bon, là, je vous ai pris des exemples où je ne parlais pas et où on ne m'a pas parlé, mais on peut aussi parler avec douceur, encourager, exhorter. Bon, c'est comme ça, c'est des anecdotes. Hein. Mais toujours en se rappelant que le cœur de notre Maître est doux et humble de cœur. Par exemple, vous avez un verset qui dit en Galates, « Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Hein » Je suis... Voilà. Pareillement, quand nous partageons l'Évangile autour de nous, prenons garde à ne pas assommer les gens, à ne pas vouloir avoir raison dans une discussion, comme disait Fred tout à l'heure. Voilà, ce n'était pas pour avoir raison, c'est pour y annoncer la vérité. Prenons garde à ne pas répondre à des questions qui ne nous ont pas été posées. Ça ne sert à rien, des fois il faut laisser venir les gens. Hein. Soyons doux et humbles de cœur dans nos relations. Ça ne veut pas dire timoré et replié sur soi, mais respectueux dans la manière de parler de Jésus. Regardez ce que nous dit un Pierre. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect. Pareil, l'apôtre Paul nous dit en Philippiens que votre douceur soit connu de tous les hommes. Donc, ça va témoigner. Et puis, on se plante tous à ce niveau-là. Hein. Mais voilà ce vers quoi on tend, ce qu'on a envie de vivre à l'image de Jésus, même si c'est très imparfaitement. Il y a une question qui est pas mal, qu'un jour j'avais entendu un pasteur dire, et que je trouve très bonne, si vous n'étiez pas chrétien, comment aimeriez-vous qu'on vous aborde pour vous présenter l'Évangile ? Hein, est-ce que vous avez envie, vous aimeriez que vous rappelez-vous, qu'on vous rentre dedans, qu'on essaye à tout prix d'avoir raison, qu'on veuille vous convaincre à tout prix de la vérité? Moi, je me rappelle qu'adolescent, je suis venu au Seigneur à l'âge de 19 ans, je n'avais entendu parler dans mon enfance, j'ai eu une période d'adolescence où je ne voulais plus trop en entendre parler. Je savais que c'était la vérité au fond de moi, mais je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Mes parents ne pouvaient pas m'en parler. Ils avaient arrêté de m'en parler. Par contre, j'ai recommencé à entendre parler de Jésus par des amis. C'était des amis. C'était aussi des enfants de chrétiens. On était à peu près au même niveau spirituellement, mais c'est-à-dire qu'on savait, ça nous parlait, mais on avait laissé. Puis je me rappelle aussi, j'allais chez mon oncle pour regarder des diaporamas de ses voyages. Et il y avait une copine à lui qui s'appelait Martine. Et elle me parlait du Seigneur. Et elle, je l'écoutais. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, mais ça se passait en douceur. Et ça a cheminé dans mon cœur. Puis à la fin, je suis venu au Seigneur. Dans sa grâce, il m'a racheté. Donc posons-nous cette question, comment on veut être abordé? Alors on va revenir au poème d'Ésaïe, à ce chant du serviteur. Et la suite de ce chant va nous donner d'autres précisions sur l'œuvre de ses serviteurs. Quel est ce droit qu'il va établir sur toute la terre? Pourquoi peut-on mettre espoir dans sa loi? On va lire les versets 5 à 9. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés. Lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à tout ce qui la parcourt. Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé d'un juste dessein et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits, et maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Alors moi, voici ce que dit l'Éternel Dieu. Puis au verset 6, moi l'Éternel, moi. Au verset 8, moi je suis l'Éternel, tel est mon nom. Fanny Lou, tu peux mettre la slide 11, la dernière slide, s'il te plaît. Voilà, on voit que là, l'Éternel se présente, on voit que c'est le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui sauve et le Dieu qui dirige toutes choses. Et donc, la dernière partie de ce chant commence par présenter Dieu comme l'Éternel qui a tout créé, qui appelle son serviteur, qui va dérouler les événements de l'histoire pour mener à bien son salut, qui est vu comme une nouvelle création. Celui qui parle se présente, si on relit le verset 5, car voici ce que dit l'Éternel Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. On dirait que Dieu présente sa fiche d'identité. Voilà tout ce qu'il a fait. Et on voit qu'en fait, il se présente comme l'Éternel Dieu. L'Éternel, c'est le nom de Dieu qui a libéré son peuple, qui a une alliance avec lui, qui l'a racheté. C'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse pour lui annoncer la délivrance de l'Égypte. Il s'est révélé en disant « Je suis celui qui suis ». Il dit aussi à Moïse, il dira « Je suis m'a envoyé vers vous ». Du coup, chaque fois que vous voyez le mot « l'Éternel » dans la Bible, ce n'est pas juste Dieu, c'est son nom, c'est le Dieu qui a voulu nous racheter. En fait, l'Éternel, ça vient, c'est un traducteur français du XVIe siècle, Olivier Tan, qui est retourné au siècle, c'est le premier qui est retourné aux textes originaux, c'est le premier qui a traduit de l'hébreu et du grec la Bible en français, et quand il est arrivé à cette expression « je suis celui qui suis ou je suis », chaque fois qu'il y avait le nom de Dieu, dans la Bible de Jérusalem, ils ont gardé le terme « Yahweh ». Dans la Tob, ils disent « le Seigneur », dans la Bible anglaise « the Lord ». Mais la plupart des Bibles protestantes ont continué dans cette tradition qui est de traduire le nom de Dieu par l'Éternel, qui traduit un peu cette notion de « je suis celui qui suis ». Qui suit, excusez-moi. Tout cela pour vous dire, c'est pas pour vous faire un petit topo sur la traduction, pour vous dire que quand on croise ce mot l'Éternel dans nos Bibles, soyons vigilants que finalement, c'est le Dieu qui a fait alliance avec nous, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a voulu intentionnellement avoir une relation avec nous. Donc c'est pas rien, c'est un Dieu qui nous vaut du bien et qui l'a prouvé en allant mourir sur la croix pour nous. C'est l'Éternel. Voilà un peu comment il se présente. C'est pas anodin. Donc, l'Éternel, ce même Dieu, a donc créé les cieux et la terre, les a disposés. Il ne s'est pas contenté de créer la terre et les hommes en les laissant se débrouiller par après. Non, il pourvoit, il n'est pas indifférent avec sa création. Il lui témoigne sa bonté et donne la vie à tous les hommes et aux créatures qui la peuplent. Ça veut dire que quand on rend grâce au Seigneur avant un repas, c'est pas un truc religieux, quoi. On se rend compte que c'est Dieu qui fait la saison. C'est Dieu qui fait la pluie et le soleil. C'est Dieu qui nous a donné un travail. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Nous, on achète tout dans les magasins, mais c'est Dieu qui fait les conditions de la vie. Il faut que tout germe. On rend grâce à Dieu. C'est vrai, quoi. C'est justifié qu'on lui rende grâce. C'est normal. Dans une de ses chansons, qui s'appelle « Assis sur le rebord du monde », Francis Cabrel nous dépeint un Dieu qui a tout créé. la terre et ce qu'elle contient, et qui se dit au bout d'un moment, il est dans le coin du ciel, dans sa mort, il dit, bon, ben, je vais aller vous asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. C'est un refrain qui revient. Alors cette chanson a été écrite pour dénoncer ce qui ne va pas sur la terre, mais au-delà du côté humoristique et inventif de la chanson, Francis Cabrel nous présente aussi un dieu absent qui a laissé les êtres humains se débrouiller seuls et qui se met à pleurer à chaudes larmes quand il s'approche du rebord du monde et qu'il voit ce qui se passe sur Terre, quoi. C'est assez comique, mais en même temps, ça montre une image un petit peu particulière de Dieu, comme si Dieu avait... Les philosophes disaient, déistes disaient qu'il a remonté une horloge et puis que tout se débrouille tout seul. Dieu n'intervient plus dans sa création. Ce n'est pas du tout ce que la Bible, et ici le prophète, nous présente. Au contraire, il nous présente un Dieu agissant qui continue à donner la vie aux hommes et le souffle de vie à toutes les créatures qui peuplent la terre. Et ce même Dieu, qui n'a cessé de témoigner sa bonté à sa création, est-ce qu'on peut remettre les slides 45, 5, 6 ? Voilà, et celle d'après, excusez-moi. Et ce même Dieu qui n'a cessé de témoigner sa bonté à sa création, même après le péché, après la chute, va être celui qui va appeler son serviteur pour un juste dessein, pour conclure une alliance avec le peuple. Celui qui a créé va aussi sauver sa création, la recréer. Le Dieu créateur est aussi le Dieu sauveur. Il montre son engagement envers sa création, envers nous, ses créatures, en intervenant à nouveau, en la rachetant par son serviteur. Et ce que Dieu a commencé avec son acte de création, il le poursuit par son acte de salut. Comme on l'a vu tout à l'heure, il ne faiblit point, il persévérera dans l'accomplissement de son plan jusqu'au bout. C'est le même Dieu qui nous rachète. Il y a à la fois nouveauté et à la fois continuité. Il rachète sa création et il nous rachète. Et ce salut, accompli par son serviteur, est présenté comme une alliance avec son peuple par son serviteur, comme un passage des ténèbres à la lumière. Dans tout le vocabulaire, après, il est parlé d'ouvrir les yeux des aveugles, de tirer du cachot des prisonniers, de la maison d'arrêt, ceux qui habitent les ténèbres. Jésus est présenté comme la lumière du monde, la lumière de tous les peuples. On voit qu'il y a un vocabulaire à la fois de... On passe des ténèbres à la lumière, et en même temps, on est libéré, on passe d'être esclave à être libre. Et quand nous partageons son évangile, sa bonne nouvelle du pardon des péchés, de son œuvre de restauration, le Saint-Esprit va éclairer les cœurs de ceux qui vont croire. Et nous allons voir des gens passer des ténèbres à la lumière, être libérés de ce qui les a enchaînés dans leur vie. Comme Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, ça se passe pareil dans nos cœurs quand on donne notre vie à Jésus. Quand Paul et Silas, vous rappelez qu'on a fait les actes au premier trimestre, quand Paul et Silas se mettent à chanter des louanges du Seigneur dans leur cachot à Philippe, dans acte 16, il y a un miracle incroyable qui se produit. La prison se met à trembler, les chaînes s'ouvrent, tombent des pieds des prisonniers, le cachot s'ouvre, et là, c'est incroyable. On voit carrément physiquement ce qui se passe intérieurement dans les cœurs. Il y a comme une correspondance entre la délivrance physique de Paul et Silas et de tous les prisonniers avec le salut qui opère une délivrance dans le cœur. Alors là, il n'est pas dit comment réagissent les prisonniers. L'accent est mis sur le geôlier et sa famille qui, eux, vont donner leur vie à Jésus. Mais j'imagine qu'ils ont dû être ébranlés aussi, autant que la prison. Et peut-être que certains, à la suite des geôliers, même s'il n'en est pas parlé, ont donné leur vie. En tout cas, on voit physiquement ce qui se passe dans le cœur des gens. Il y a une correspondance dans ce passage. Ça illustre ce passage. Jésus est la lumière qui peut nous rendre libres intérieurement. Et enfin, cette œuvre de salut, elle est l'œuvre de Dieu seul, de l'Éternel. C'est ce qu'il est dit au verset 8. Je suis d'avant, merci. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, je donnerai ma gloire à aucun autre. Pendant longtemps, je disais des versets sur la glorieuse grâce de Dieu dans Éphésiens ou dans d'autres passages, et puis je ne réalisais pas vraiment ce que je disais. Je comprenais tous les mots, hein, mais bon, la glorieuse grâce de Dieu, ça restait un peu abstrait pour moi, jusqu'au jour où le Seigneur m'a éclairé là-dessus, et j'ai compris que c'était par grâce seulement, alors tout venait de lui, et à lui seul revenait la gloire. La grâce glorieuse de Dieu. Là, j'ai compris le truc. Enfin, autant qu'on peut, on n'a jamais fini de comprendre. Hein. Donc, je ne peux rien apporter pour mon salut. C'est l'œuvre de Dieu seul. À lui, toute la gloire. La seule chose que j'amène lorsque je viens à Jésus, finalement, c'est mon péché ou mes difficultés. Mais c'est lui qui fait toute l'œuvre. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Si quelqu'un n'a jamais répondu à cette invitation, elle vous est lancée à nouveau. C'est peut-être même la première fois qu'on l'a entendu, mais que ce soit la première fois que vous l'ayez déjà entendu, que vous en ayez besoin à nouveau, l'invitation est toujours là. Venez à moi, vous tous, êtes fatigués et chargés. Et c'est lui qui pourvoira pour tout le reste. Vous venez comme vous êtes. Et enfin, ce chant du serviteur, à la fin, il rappelle les événements du passé, le Dieu qui a tout créé. Maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux. Non, c'était bien, Fanny Lou. Excuse-moi. J'annonce des événements tout nouveaux avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Les événements du passé sont produits et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Il y a eu aussi l'Exode, la délivrance d'Égypte. Ils ont déjà vécu des délivrances et maintenant il annonce des événements nouveaux. Et contrairement aux idoles muettes et impuissantes, lui, l'Éternel, qui crée, qui sauve, il dirige aussi toutes choses. Il ne subit pas les événements, il ne réagit pas aux événements. Il les déroule, il les planifie, il les contrôle. Pour notre salut, il va le mener jusqu'au bout, il va nous garder jusqu'au bout. Il a le pouvoir de le faire. Il reviendra, il transformera cette terre. Nous vivrons dans des nouveaux cieux, nouvelles terres. Et puis dans nos vies aussi, il dirige les événements. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous sont douloureuses. Mais rappelons-nous, même si ce n'est pas facile, que c'est le Dieu qui est mort pour nous à la croix, qui est malgré tout souveraine de tout ce qui se passe. Et puis aussi dans des choses toutes simples, Dieu nous dirige. Dans vos vies de tous les jours, je ne crois pas que c'était Dieu qui appelait, donc... Dans nos vies de tous les jours, des fois, il se passe des choses simples. Des fois, vous arrêtez quelque part, c'est entre midi et deux, vous avez une pause, vous devez aller au restaurant, vous rentrez dans le restaurant, il est plein, vous sortez dans le restaurant d'après, vous allez dans le restaurant d'après parce que celui-là, il est plein, quoi. C'est du bon sens, c'est du hasard. C'est comme ça, il était plein, il n'était pas bien, on va suivre d'après. Puis paf, vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas croisé depuis longtemps et vous avez une discussion bénie avec cette personne. Je vous dis ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. En apparence, ça semble que du hasard. Mais croyons que, et croyons-le intentionnellement, je sais que Gérard Chabal le fait, il me l'avait témoigné, le matin, il se met devant le Seigneur, « Seigneur, fais-moi saisir les occasions que tu vas me présenter. » Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, on prend tel chemin ou tel autre. Mais si on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit nous dirige, même quand on ne se rend pas compte. Et le Seigneur va agir. Voilà, prions. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, de ta grâce pour Jésus, notre Sauveur, qui est venu avec humilité et amour marcher parmi nous, qui nous a dévoilé ton cœur et nous a proposé ce si grand salut. Nous voulons en être toujours reconnaissants, Seigneur, nous laisser transformer à son image, apprendre à avoir son cœur doux et partager la bonne nouvelle de ton salut avec douceur et vérité. Aide-nous dans tout cela, Seigneur. Amen.